Vous écoutez Radio Capi, c'est l'heure de vous informer. Les journaux, Jean-Désiré Kanyama.
Radio Capi. Oh, Capi.
À la une, la défaite de Léopard de la RDC ce matin face à la Colombie, 0 contre 1. Un match qui a amené des milliers de Congolais à veiller pratiquement. Les coups d'envoi a été donné à 3h du matin, heure de Kinshasa. Mais tout n'est pas encore perdu pour l'équipe nationale. Lutte contre Ebola, Anyania, Ituri. La riposte est freinée par des défis logistiques et sécuritaires. Les échantillons des cas suspects sont déplacés dans des véhicules de transport en commun, faute de moyens propres à la riposte. Nous sommes le 24 juin, la journée nationale du poisson. Occasion de faire le point sur la pisciculture au Maniema et ses défis. Nous en parlons avec notre invité Ali Lutimba Omari. Il est le président du conseil d'administration de l'Union des associations des aquaculteurs du Maniema. Mesdames, messieurs, bonsoir. Les léopards de la République démocratique du Congo n'ont pas réussi à rougir face aux Colombiens dans un match intense mais finalement cruel. Les Congolais se sont inclinés sur le score de 1 à 0. Une défaite qui laisse un goût amer, d'autant que le coup d'envoi a été donné à 3h du matin, heure de Kinshasa, en raison du décalage horaire avec le Mexique. Malgré le froid et les sacrifices du sommeil, des centaines de supporters congolais ont vibré en communion avec leurs héros pour cette Coupe du Monde. Le papier de Jean Gandou est rendu par Alain Hirung.
La RDC est passée à côté de son rendez-vous face à la Colombie. Dominée dans tous les compartiments du jeu, les Léopards ont subi pendant de longues minutes la pression offensive de leurs adversaires. Sans les interventions décisives du portier Lionel Mpassi, la défaite aurait pu être bien plus lourde pour son équipe. À force de reculer, les Congolais ont fini par céder. Les Colombiens ont trouvé la faille peu avant le dernier quart d'heure de la seconde période, concrétisant ainsi leur domination. Durant cette rencontre, la ligne offensive congolaise a été étroitement surveillée au point de laisser le gardien colombien passer une grande partie du match sans être véritablement inquiété. Le premier tir cadré des Léopards n'est intervenu que dans les arrêts de jeu. C'est d'ailleurs dans ces ultimes minutes que les Congolais ont tenté de se projeter timidement dans le camp adverse. Ce sursaut tardif n'a toutefois pas suffi à inverser la tendance. Les Colombiens ont conservé leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Pour certains analystes, la gestion du match par le sélectionneur national pourrait expliquer cette contre-performance. Au classement, la RDC occupe désormais la troisième place de son groupe avec un seul point. La Colombie, quant à elle, est déjà qualifiée avec 6 points, suivie du Portugal qui en compte 5. L'Ouzbékistan ferme la marche avec 0 point.
En Ituri, notamment à Mambasa, à 360 km de Bunia, dans les territoires du même nom, la riposte contre Ebola se heurte à un obstacle de taille. À Niania, les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Faute de moyens adaptés pour transporter les échantillons biologiques, la lutte s'essouffle. Dans ce coin reculé où chaque heure compte face au virus, les équipes médicales réclament un renforcement urgent des capacités logistiques. Une urgence sanitaire qui appelle à des réponses rapides et concrètes. Détail avec Jean-Claude Lokidili.
Selon les médecins chefs des zones de santé, le docteur Joseph P. Manakoué, les échantillons prélevés sur les cas suspects sont souvent transportés à bord de véhicules de transport en commun avec le risque de perte ou de détérioration en cours de route. Une situation qui retarde les analyses et complique la prise en charge de malades.
On doit avoir un véhicule qui va circuler au niveau des aires de santé, récupérer les échantillons, amener directement au niveau des grands labos. Ce que nous avons demandé, c'est doter la zone de santé en moyen de mobilité facile pour que nous puissions être capable d'acheminer les échantillons, même de se mouvoir au niveau de la zone santé pour faire la surveillance et suivre les cas et qu'on sort. On doit avoir les moyens faciles. Si on a les labos mobiles ici, à ce moment-là, directement qu'on prélève, on a les résultats. Et ça pourrait aussi nous faciliter la tâche.
Au-delà de ces difficultés logistiques, la zone de santé fait également face à l'insécurité persistante liée aux incursions des ADF dans certaines aires de santé, notamment à Bafakoa et Bandengaïdou. Le centre de santé de Bafakoa est fermé depuis le mois d'avril et fonctionne stationne désormais en déplacement à Niania dans des conditions jugées précaires. Pour les autorités sanitaires locales, un appui rapide en matière de logistique et de sécurité est indispensable pour contenir efficacement l'épidémie qui compte déjà 2 cas confirmés dans la zone. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Kapi.
Alors que le médecin chef de la zone de santé de Niania alerte sur les difficultés logistiques auxquelles fait face la riposte contre Ebola, notamment pour l'acheminement des échantillons vers Bounia, les autorités nationales assurent que des mesures sont déjà en cours. Elles indiquent que des équipes spécialisées, des moyens logistiques et des contre-mesures médicales ont été déployées sur place depuis plus de 10 jours pour renforcer la réponse à l'épidémie. Écoutons plutôt le docteur Richard Kitenge, coordonnateur national adjoint en charge de la riposte contre Ebola, joint par Jean-Claude Lokidili.
Niania est appuyé depuis plus de 10 jours avec des équipes du niveau national et du niveau provincial qui sont là avec des moyens logistiques, avec des contre-mesures médicales pour pouvoir mettre en place les activités de riposte. Les équipes qui sont arrivées ont identifié les gaps qu'ils ont partagés avec nous et là nous sommes en train de nous activer pour apporter de l'appui additionnel. En termes de prélèvement des échantillons, comme vous savez, nous avons misé la stratégie dans la décentralisation de laboratoire. Donc, avec la confirmation de Kanyanya, la zone de santé figure parmi les prioritaires à pouvoir bénéficier d'un laboratoire mobile qui va résoudre ce problème d'acheminement d'échantillons, notamment vers Bounia ou vers Niafoundé où nous avons des laboratoires.
En bref, la France vient d'enregistrer un premier cas confirmé d'Ebola. C'est le ministre français de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées qui livre l'information. Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère explique qu'il s'agit d'un travailleur humanitaire français de retour de mission en République démocratique du Congo, précisément dans la province de l'Ituri. Les autorités sanitaires françaises rassurent que la France dispose de capacités spécialisées de prise en charge des maladies infectieuses hautement transmissibles. Le malade a donc été placé à l'isolement dans un hôpital spécialisé pour éviter tout risque de contamination. Une enquête est déjà en cours pour retrouver et isoler à domicile pendant 21 jours toutes les personnes qui ont été en contact avec lui. Pour les experts européens de la santé, le risque de propagation de la maladie en Europe reste très faible. Retour au pays dans la Tchopo pendant ce temps. À l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani, la campagne de dépistage volontaire et gratuit de l'anémie SS arrive bientôt à son terme. Depuis le 19 juin dernier, date de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, étudiants, enseignants et habitants se sont pressés pour participer. 5 jours d'espoir, de mobilisation, où chacun est venu chercher plus qu'un résultat, une certitude, une sécurité pour l'avenir. Une initiative qui suscite un véritable engouement et qui rappelle que la santé est avant tout une responsabilité partagée. Le point avec Jacques Moukonkoli.
Depuis le coup d'envoi le 19 juin, l'affluence ne faiblit pas à l'ISP Kisangani. Étudiants comme corps scientifique se bousculent pour ce geste qui sauve. Parmi eux, l'assistant Justin Mouindo. Il vient tout juste de se faire piquer.
Je suis satisfait du résultat qui est sorti AA, c'est-à-dire que je n'ai aucune trace de ce gène drépanocytaire dans mon sang.
À l'origine de cette mobilisation, une volonté médicale, celle d'aller au-delà des simples discours théoriques. Docteur Rachel Mukangi, médecin traitant.
La connaissance de son statut hémoglobinique permet directement de prévenir cette drépanocytose en évitant les partenaires qui peuvent prédisposer la personne à avoir des enfants porteurs de l'allèle SS.
Mais le temps presse. Prévu pour durer 5 jours, la campagne arrive bientôt à son terme. Le docteur Rachel lance un ultime appel pressant à la jeunesse boyomaise.
Cette crainte est venir se faire dépister ici à l'ISP Kisangani quand le dépistage est encore gratuit. Mais à un certain moment, on pourra avoir une rupture des stocks. Avant le mariage, c'est toujours mieux de connaître son statut hémoglobinique et celui de son conjoint.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
En prélude à une imminente session extraordinaire du Parlement, les présidents des assemblées provinciales ont porté leurs préoccupations directement au Sénat. Reçu hier mardi par le président de la Chambre haute, Jean-Michel Samaloukonde, leur délégation appelle à des réponses urgentes face à des difficultés qui affectent le fonctionnement des institutions provinciales. Des détails avec Grâce Hamzati Massanzi.
Alors qu'une session extraordinaire du Parlement est annoncée dans les prochains jours, les assemblées provinciales font entendre leur voix. Leurs représentants ont été reçus par le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, pour lui faire part de plusieurs préoccupations jugées prioritaires. Parmi elles figure la crise des trésoreries qui touche plusieurs assemblées provinciales. Selon la délégation, les arriérés des salaires des députés provinciaux continuent de fragiliser le fonctionnement des institutions dans les provinces. Les élus demandent ainsi au Sénat de s'impliquer davantage pour faciliter la recherche des solutions. Autre sujet de préoccupation, les relations entre les assemblées provinciales et le ministère de l'Intérieur. Les présidents des assemblées dénoncent ce qu'ils considèrent comme des ingérences incompatibles avec l'autonomie administrative et des gestions reconnues aux provinces par la Constitution. La délégation a également abordé le débat sur une éventuelle réforme constitutionnelle. Elle rappelle que les 780 députés provinciaux représentent une force institutionnelle importante dont la participation ne saurait être ignorée dans les discussions touchant à l'avenir de la loi fondamentale.
Répression et attaque contre les défenseurs fonciers et climatiques. C'est l'intitulé du rapport publié hier mardi par l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains ACEDH. Couvrant la période du 1er août 2025 au 31 mars 2026, ce rapport d'enquête recense au moins 31 cas de violations graves des droits et libertés des défenseurs de l'environnement et des droits fonciers. C'est notamment dans les provinces du Haut-Uele, du Maniema, Tchopo, Équateur et Nord-Kivu. Bernanet Dangui pour plus de détails.
Parmi les faits documentés, au moins 6 défenseurs tués et 16 cas de poursuites judiciaires visant à les intimider ou à les réduire au silence, ainsi que 2 enlèvements enregistrés dans l'exercice de leurs activités. Le rapport évoque également des attaques d'hommes armés contre des postes de patrouille dans les parcs nationaux d'Upemba, de Kahuzi-Biega, ainsi que dans la réserve de Fona Okapi, causant des pertes parmi les éco-gardes. Le secrétaire exécutif de l'ACDH dénonce une situation paradoxale dans un pays déjà présenté comme un pays solution face à la crise climatique, mais où les défenseurs continuent d'être exposés à de graves abus. Maître Olivier Ndolé.
Les provinces à forte production minière, à forte couverture forestière, mais aussi à parcs nationaux, qui sont beaucoup plus concernés par ces graves violations. Et globalement, dans toute impunité, nous interpellons les autorités à réformer sur le plan institutionnel, mais aussi juridique, pour que nous puissions avoir des politiques publiques sensibles à cette situation. Si avec les acteurs privés, qu'il y ait des stratégies générales à documenter les cas, à mener des plaidoyers, des discussions beaucoup plus démocratiques.
Ce rapport de 46 pages, publié le 23 juin 2026, vise, selon la CDH, à dénoncer les violations commises par les groupes armés et mouvements rebelles dans l'est de la RDC, ainsi que les abus persistants dans les zones gouvernementales où les défenseurs climatiques restent très vulnérables.
Et puis, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de renforcer la protection et l'autonomisation des veuves à l'occasion de la journée qui leur est dédiée, célébrée chaque 23 juin. La ministre du Genre, Famille et Enfants a salué la résilience et la contribution des veuves à la survie des familles à travers le pays. Micheline Ombaye a affirmé la volonté du gouvernement de garantir leur protection et de faciliter leur accès aux ressources économiques. Plus de détails avec Blaise Nongala Mayanda.
La ministre du Genre, Famille et Enfants a rendu un vibrant hommage aux veuves congolaises pour leur sacrifice pour la survie des familles malgré les défis sociaux, économiques, psychologiques après la perte de leurs conjoints. Elle a également réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais en faveur du bien-être de cette catégorie de femmes à travers les pays.
Nous nous engageons à renforcer la protection juridique des veuves dans les affaires successorales en vulgarisant les codes de la famille et en offrant un accompagnement juridique adapté, en facilitant l'intégration des veuves dans les programmes de microfinance, de formation professionnelle et d'activités génératrices de revenus.
La présidente de la synergie des associations des veuves et orphelins du Congo a dénoncé plusieurs injustices auxquelles les veuves font face, notamment la spoliation des biens, l'exclusion successorale, la discrimination sociale et les manques d'opportunités économiques. Alors que le directeur général de l'Office national pour la promotion de la stabilité de la famille a souligné que la situation des veuves demeure préoccupante en RDC, particulièrement dans les zones affectées par les conflits. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective pour garantir leur protection, leur dignité et leur épanouissement.
La journée nationale du poisson, célébrée chaque 24 juin en République démocratique du Congo, s'est déroulée dans une quasi-indifférence en Mbujimayi, au Kasaï oriental. Aucun message officiel, aucune activité publique. Pourtant, dans les marchés de la ville, un phénomène attire l'attention. Une abondance inhabituelle des poissons, un contraste saisissant avec les années précédentes. Une réalité qui interroge et qui mérite explication. Esther Ndalafina.
Sur les étals du marché d'Ibindi ou encore de Wetrafa, les vendeuses alignent des quantités impressionnantes de poissons fumés, salés ou frais. La majorité provient du Haut-Katanga et du Tanganyika, deux provinces qui alimentent fortement les circuits commerciaux en cette période post-fermeture de poissons. Nicole Tcha, la vendeuse de poissons, explique cette situation.
Après la fermeture de la pêche, vers les mois de juin et juillet, les poissons inondent le marché.
Si cette abondance inquiète certains vendeurs qui voient leur marge diminuer, elle représente en revanche un véritable soulagement pour les ménages déjà éprouvés par la flambée générale des prix. Olivier Chibango, client rencontré au marché d'Ibindi, partage sa satisfaction.
Ces derniers temps, les camions viennent déposer la marchandise et les poissons qui se vendaient à un prix très élevé maintenant, c'est à un prix là équilibré.
Sur le plan nutritionnel, cette disponibilité accrue est une opportunité à saisir, rappelle Ezekiel Mbaya, coordonnateur provincial du programme national de nutrition Pronanut.
Les familles, les groupes d'aliments capables de renouveler les tissus, les briques de construction.
Signalons que cette abondance a favorisé une vente des poissons dans plusieurs quartiers. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le procès de l'affaire de Bosembele se poursuit devant la Cour pénale spéciale en Centrafrique, jugeant notamment François Bozizé pour crime contre l'humanité. L'ancien chef de l'État est poursuivi pour des faits commis entre 2009 et 2013, alors que la Cour estime réunies les conditions pour un jugement par coutumance. L'ancien président étant en exil en Guinée-Bissau, les avocats de la défense ont dénoncé hier mardi des irrégularités des procédures et évoquent une atteinte aux droits de François Bozizé.
L'invité.
Il s'agit du président du conseil d'administration de l'Union des associations des aquaculteurs du Maniema. Ali Loutimba Omar y revient sur les défis auxquels font face les pisciculteurs de la province, malgré les nombreuses potentialités qu'offre le Maniema. C'est à l'occasion de la journée mondiale du poisson, célébrée chaque 24 juin. Ali Loutimba Omar s'entretient avec Florence Kizalunga.
Ali Loutimba Omari, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Brièvement, parlez-nous de votre structure IAM, c'est quoi et c'est quoi sa mission?
IAM veut dire Union des associations des aquaculteurs du Maniema. Nous sommes la plateforme qui regroupe toutes les associations de la province du Maniema qui s'adonnent à la pisciculture. Et donc nous sommes à peu près les syndicats pour aider les pisciculteurs de la province du Maniema à aller de l'avant.
Maniema présente quelle potentialité dans ce secteur?
Beaucoup de potentialité, madame. D'abord, vous devez savoir que le Maniema est traversé par le fleuve Congo. Le Maniema a plusieurs rivières, affluents. Le Maniema a des milliers et des milliers d'étangs piscicoles parce que nous, on n'a pas de problème d'eau. Nous avons de l'eau qui est le premier potentiel important pour la pisciculture et pour la pêche en général.
D'après l'histoire, Maniema nourrissait les autres provinces en poissons parce qu'elle disposait des gros étangs. Pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui?
Oui, madame, vous avez parfaitement raison. Maniema, à l'époque, avait des infrastructures piscicoles très importantes, notamment, je cite Kisamba, dans les territoires de Kasongo. Kisamba, qui s'étendait sur plus de 123 hectares, avec 34 étangs piscicoles, c'était important, c'était énorme. Mais il y a plus de 30 ans, Kisamba ne tournait plus, Kisamba ne sait plus fournir des alevins améliorés. Et nous avions aussi, à son temps, avant l'indépendance, vers les années 52 déjà, il y avait aussi Bissamengo, qui a été aménagé. Et Bissamengo, c'est sur 7 km et 36 étangs piscicoles. Et tout ça, ça permettait à ce que nous ayons une grande production. Je vous donne par exemple le cas de la production de Bissamengo. Bissamengo atteignait déjà par cycle de production une tonne. C'est déjà beaucoup. Et les gens de Chabunda, des autres territoires, ils venaient prendre des poissons là-bas. Malheureusement, depuis un certain temps, les choses ont un peu baissé. Et c'est comme ça que la situation ne s'améliore pas encore. Mais je crois que nous sommes en train de nous battre pour que la situation soit améliorée. Donc les potentialités, nous les avons.
Quels sont les besoins réel des pisciculteurs du Maniema?
Écoutez, madame, les pisciculteurs du Maniema sont là, par milliers. Et les pisciculteurs du Maniema ont des stations d'alévinage. Nous en avons une trentaine urbaines dans la province. Mais ces stations doivent être des stations intégrées, c'est-à-dire vous avez vos bassins de production d'alevins, mais pour que vous puissiez produire des alevins, vous devez avoir une écloserie. Et une écloserie par station, ce serait une bonne chose, mais à côté d'une écloserie, vous devez aussi avoir des provenderies. Parce que les poissons ont besoin, d'abord, vous les avez fait naître avec votre écloserie, mais ils doivent manger. Et les aliments, c'est avec la provenderie. Mais aussi, en dehors du fait que nous avons des stations d'alevinage qui doivent être aménagées correctement, nous avons besoin des écloseries. Dans chaque station, nous avons des provenderies, mais nous avons aussi besoin de l'accompagnement technique. Parce qu'aujourd'hui, vous devez constater que les pisciculteurs du Maniema gèrent plus l'eau dans les étangs que les poissons, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés d'accompagnement technique dans ces domaines-là.
Quelle importance pour le gouvernement avec ses partenaires d'appuyer le pisciculteur aujourd'hui?
Madame, nous les pisciculteurs, nous contribuons à la sécurité alimentaire dans les pays, dans la province et dans nos ménages. Et donc, nous sommes des partenaires fiables du gouvernement et que le gouvernement a l'obligation de nous aider pour que nous puissions à notre tour contribuer à la sécurité alimentaire dans les pays.
À part la sécurité alimentaire, ça doit être aussi dans la lutte contre le chômage.
Lutte contre le chômage, lutte contre la pauvreté, parce que moi je suis pisciculteur aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire une demande d'emploi, parce que j'ai créé mon propre emploi, j'ai créé l'emploi pour les autres, mais aussi je participe non seulement à la sécurité alimentaire, mais à la lutte contre le chômage et la pauvreté.
À l'occasion, quel message à ces pisciculteurs qui t'écoutent?
Aux pisciculteurs qui m'écoutent à travers la radio Capi, c'est de leur demander de ne pas baisser les bras. Parce que nous, nous contribuons à la sécurité alimentaire. Et vous savez, ce qui donne comme protéine les poissons. Et donc, ne baissons pas les bras, allons de l'avant. Le monde doit savoir que les pisciculteurs contribuent efficacement à donner du poisson. Et le poisson, c'est une denrée importante dans la vie de l'homme. Et donc, le gouvernement a tout intérêt à soutenir ce que les pisciculteurs font pour permettre à ce que nous puissions contribuer davantage à la sécurité alimentaire dans le monde et dans la communauté en général.
Ali Lutimba Omari, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était notre invité, le président du conseil d'administration de l'Union des associations des aquaculteurs du Maniema, Ali Lutimba Omari, s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal. Infiniment merci à vous de l'avoir suivi et de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Capi.